Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Revolver. Elle a tiré à bout portant au corps. Maurice tombe. Elle recule. Il tombe à terre. Elle lâche ce revolver qui tombe à terre. Elle entend derrière elle la voiture de Maurice qui s'est mise en route et roule vers elle. Elle court de plus en plus vite, n'ose pas se retourner. Elle a reçu une balle en plein dos, tombe à terre. La voiture fait demi-tour et fonce. D'un coup, elle a explosé. Tout de suite, le téléphone sonne dans le bureau du vieil homme en noir qui est à la maison au fond de la cour. Le téléphone est à côté de lui. Il a décroché.
Allô? Alors, bon.
Et il raccroche. Il dit à la dame en noir.
Le père a été tué comme prévu par la mère de Nathalie. Et elle a été tuée par Laurent le tueur qui lui a été tué par nous.
Elle lui demande. Expliquez-nous.
C'est simple. Nous apprenons que la mère de Gilbert écrit une lettre à la mère de Nathalie pour annuler le mariage grâce aux domestiques qui sont à la maison et qui sont avec nous. Nous interceptons cette lettre en écrivant une autre plus forte pour qu'elle puisse réagir. La mère furieuse donne rendez-vous à Maurice. Il y va avec son chauffeur, le tueur, Laurent. Nous lui disons qu'après qu'elle ait tué Maurice, il doit la tuer. Nous avons mis une bombe dans la voiture. Une fois qu'il a tué la femme, il rentre dans la voiture et lui est tué par la bombe. Voilà. La police est sur les lieux. Ils découvrent les corps et leurs noms. On doit prévenir la famille. Le commissaire va sonner chez Elisabeth en pleine nuit. Comme c'est une personnalité, on ne peut pas entendre le lendemain. La porte s'ouvre. C'est le domestique en robe de chambre.
Oui.
Je suis commissaire de police. J'ai une triste nouvelle à annoncer à votre maîtresse.
Bien, monsieur. Entrez.
Il entre. Suivez-moi. Et il le mène au salon.
monsieur.
Et il attend. Deux minutes plus tard, sa porte s'ouvre. C'est Charlotte, en robe de chambre de soie blanche. Elle lui dit, vous m'apportez une nouvelle grave, monsieur. Je vous écoute. Il lui dit,
oui, malheureusement, madame, votre mari, monsieur Maurice Franblanc, a décédé.
Elle devient toute pâle. Mon mari?
Le commissaire lui dit, je suis navré, madame.
Il se reprend et lui demande, il est mort comment?
Il lui dit, assassiné d'une balle dans le cœur, en pleine face. Il a été tué par une femme.
Et quelle est cette femme?
Madame, une dénommée Poncet, Anne.
Mon Dieu, la future belle-mère de mon fils, j'ai toujours dit qu'elle était folle, cette femme. Pourquoi l'a-t-elle tuée?
Nous ne le savons pas. Parce qu'elle a été tuée tout de suite après son crime par votre chauffeur.
Elle dit, brave homme, il a fait justice.
Le commissaire lui dit, et il est mort, lui aussi, après son acte. Il est parti en vive allure, dans la voiture de son maître, qui a explosé. Carburant de mauvaise qualité.
La mère soupire et dit, brave homme, et le corps de mon mari, où est-il?
Il lui dit, à la morgue, madame. Vous pouvez aller le voir demain matin et aller quai des Orfèvres, bureau 23.
Elle dit, je vous remercie, monsieur.
Il la salue et se retire.
La stupeur de la nouvelle et tout ce qu'elle doit faire face lui fait remonter la peine, sa peine, surmonter sa peine.
Elle se dit,
je savais instinctivement que les Poncet allaient nous apporter le malheur. Mon pauvre Maurice, plus de 20 ans de vie commune.
Elle va au téléphone. Il fait un numéro.
Allô? Gilbert, c'est moi, ta mère. Il est arrivé quelque chose de terrible. Peux-tu venir me voir, s'il te plaît? Mon chéri, tout de suite. Bien, je t'attends.
Elle décroche.
Demi-heure plus tard, Gilbert va sonner à la porte de ses parents.
La porte s'ouvre. Le domestique lui a ouvert. Il a eu le temps de s'habiller. Bonsoir, monsieur. Entrez.
Il entre.
Gilbert demande. Que se passe-t-il ?
Oh, monsieur, une très mauvaise nouvelle. Madame vous attend. Madame, votre mère vous attend au salon.
Inquiet, Gilbert monte au salon.
Entrez.
Il entre. Elle est en chemise de nuit, lui tend les bras, il accourt à elle. Elle lui dit,
ton père est mort.
Gilbert reçoit un coup au corps. Elle lui dit,
il a été assassiné.
Et il lui raconte tout, ce que lui a dit le commissaire. Il lui dit, je ne comprends pas. Et lui dit,
il n'y a rien à comprendre. Tu es. Reste avec moi. Demain, je dois aller à la police. Voir le corps.
Il lui dit,
oui, mère. Tu peux compter sur moi.
Il reste près de sa mère, la tête vide, assommée par cette nouvelle si terrible. Son père, tué par la mère de Nathalie, sa future belle-mère, qui elle-même a été tuée. Il pense à Nathalie et se dit qu'elle doit être encore plus seul et peiné que lui. Il aimerait la réconforter, mais ne peut pas. Sa mère d'abord, serait pas honnête de consoler la fille de l'assassin de son père, en abandonnant sa mère. Quelle horreur! Ne cherche même pas à savoir le pourquoi de ce crime. Elle était folle. Elle ne pouvait qu'être folle. Tuer le père de son gendre, l'homme le plus puissant et riche du monde, qui malgré la différence de fortune, a la bonté d'accepter dans sa famille une fille. Nathalie, on ne tue pas pour un acte pareil, à moins d'être fou. Il passe la nuit avec sa mère, à la servir, lui faire du thé, la consoler. Demain matin, ils vont tous les deux au quai des Orfèvres déposer et entendre la conclusion. La mère dit que son mari lui avait dit qu'il dînait en ville, mais rien d'autre. Et Gilbert était au courant de rien. La police pense comme Gilbert que c'est un acte de folie. Que ce ne peut être qu'un acte de folie, vu la bonté du père d'accepter comme belle-fille Nathalie. Puis sont allés à la morgue
reconnaître le corps. On leur a dit que vu la victime, ils peuvent prendre le corps. Gilbert a téléphoné à la clinique Jeune Touriquin pour qu'ils viennent le chercher et faire la toilette à la clinique. Le préfet de police a été informé de la nouvelle tôt ce matin. Cela l'inquiète. C'est un grand homme sec, cheveux châtains, moustache, costume marine. Il donne l'ordre que la nouvelle reste secrète et décide d'en parler d'urgence au ministère de la Justice. Et lui va en parler au président de la République, Marc. Et dans le bureau du président de la République, à l'Élysée. Il lui a porté le dossier. Marc le lit et dit « C'est très grave. La France est en danger. Si les Américains le savent, nous sommes perdus. La France dégringolera. Le franc avec. Et c'est la fin de nous. Cette nouvelle doit rester secrète. Il faut que le conseil d'administration se réunisse et élise tout de suite un président. Une fois que la chose est faite, on annonce la mort et en même temps le nouveau président. Comme ça, personne ne peut plus rien. Faites vite. Et qui est le second du groupe déjà ?» lui dit un dénommé Harold. Marc lui dit « Dites-lui de réunir le conseil de l'administration le plus vite possible. » Miss demande « Et la jeune fille de la criminelle ?» Marc lui dit « Mettez-la aux arrêts pour qu'elle ne dise rien. Après, nous verrons. Allez, vite. Ah ! Et le corps, cachez-le au secret. » Le ministre convoque dans son bureau Harold, lui dit la nouvelle qu'il connaît déjà. Vous demande si de convoquer le conseil d'administration pour élire un nouveau président et le faire de suite. Dès que vous avez le nom, vous nous le faites savoir. La mort de votre cher président restera secrète jusqu'à ce que la nouvelle de votre président sera su. Allez, et faites vite. Le préfet de police dit à la mère et au fils de garder secret de la mort du père pour la France. Policiers en civil dans la matinée viennent chercher Nathalie.
D'elle, nous avons reçu l'ordre, c'est de vous mettre aux arrêts.
Elle ne sait rien. Pourquoi?
Parce que votre mère a tué Monsieur Framblanc. Venez, mademoiselle.
Elle les suit. Elle est bouleversée. et pense à Gilbert. On l'amène dans une maison isolée à la campagne au fond d'un parc. Les chiens de garde policiers. Elle aura tout ce qu'il lui faut. Harold convoque par internet tous les membres du conseil d'administration pour une réunion extraordinaire très urgente. Il fait préparer la salle de réunion, des chambres pour les gens qui viennent de loin, restaurants, etc. Personne au siège ne connaît la nouvelle, on pense que le président est en voyage. Les membres du conseil d'administration sont surpris, mais sont obligés d'y aller. Ils commencent à arriver. Certains viennent en avion privé. Ensuite, ils sont amenés en voiture jusqu'au siège. Il y a parmi eux le président du groupe Pontois, celui du groupe Jeune-Tout, celui du groupe Diap, Harold qui représente le président à tous. Il y a quelques journalistes, présidents de quelques filiales. Bien entendu, celui qui représente la famille du défunt, c'est Gilbert. Personne ne sait rien et la réunion se passe dans une salle close. Sans téléphone, ni rien. Personne ne peut quitter la salle avant la fin de la séance. Les portes sont closes. Il n'y a que le conseil qui est dans la salle, même pas une secrétaire. Il n'y a que le conseil qui est dans la salle, même pas une secrétaire. Qui préside ? Gilbert est à sa droite. Harold annonce la nouvelle terrible et dit ce que veut le président. Nous devons élire un nouveau président de suite. Le temps presse. Je vous demande d'élire Gilbert Framblant, le fils de notre défunt président. Gilbert se lève et crie « Non, je ne le veux pas !» Tout se regarde. Harold lui dit « Vous ne pouvez pas refuser. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la présidence. Le groupe va se dissoudre autrement. Le premier groupe de France, du monde, ne sera plus. Ce sera terrible. La fin de la France. Les Américains vont sauter sur l'occasion pour s'emparer du monde. Hitler envahira la France. Et l'Amérique aura le monopole de tout. Vous ne pouvez pas faire ça. Et pensez à votre mère, qui est déjà dans le chagrin. Votre décision va décider du sort de la France et du monde occidental et de millions de gens. L'avenir de tous est entre vos mains. Si vous dites non, c'est la fin de tous et de vous. Le père réfléchit et dit, je ne suis pas digne d'un tel pouvoir. Pour moi, pourquoi me mettre entre les mains à moi? En rien, un humble, le sort du monde. Harold lui dit, on ne choisit pas sa destinée, mais lorsqu'il le faut être noble et se sacrifier à ce dont on a été élu. Dites oui, je vous en conjure, pensez à la misère que vous allez éviter. Ferme les yeux et vois des milliers de miséreux dans les rues. Ils crient, oui! Et pleurent la fin de sa vie. Car il sait qu'il n'est qu'un symbole. Il s'assoit. Les autres applaudissent. Il sait qu'il n'est plus qu'un symbole. On a fait le compte-rendu de la réunion et mis des photocopies au président de la République de suite. Le président de la République annonce la mort de Maurice Franblanc à ses ministres qu'il annonce à la nation. Le corps est redonné à la famille. Il y aura des funérailles grandioses. Le monde apprend la mort de Maurice, une mort brutale causée par la folie d'une femme et en même temps la présidence de Gilbert. Les Américains ne bronchent pas, il est trop tard. Le groupe a un président et il continuera. Charlotte est heureuse que Gilbert ait repris la place de son père. Les funérailles ont lieu, une messe à Notre-Dame de Paris, ce sont presque des funérailles nationales. Il y a des chefs d'État de différents pays, dont bien entendu la France, l'Amérique, etc. Des ministres, tous leurs ministres, un représentant du pape, des industriels,
Il a été enterré dans un caveau au Père Lachaise. Officiellement, il a été tué par une folle au cerveau dérangé. Et on a clos l'affaire.
Gilbert vit avec sa mère pour la consoler. Sa mère vit toute seule dans sa chambre, a du remords. Elle pense à la lettre qu'elle a envoyée à la mère de Nathalie et se dit que c'est sûrement cette lettre qui a tué son mari. Elle se jure solennellement de se punir. Après réflexion, elle décide c'est de rentrer chez les religieuses, de tout laisser à son fils. Elle le dit un matin, en prenant son petit déjeuner dans le salon. Il lui demande « Pourquoi ?» Elle lui dit « C'est mieux, je n'ai plus rien à faire ici. » Je te laisse tout. Et ne dis rien. J'ai décidé. Je partirai dans un mois. Gilbert demande à Julien d'avoir des nouvelles de Nathalie, de se renseigner. Julien va chez elle, se renseigne, la bonne lui dit. Ça fait des mois qu'elle a disparu. La police ne dit rien. Julien le dit à Gilbert. Gilbert lui dit, je vais m'en occuper. Gilbert a beaucoup de travail. Il apprend à être président. Harold et Judith sont constamment près de lui
à l'aider. Il passe beaucoup d'heures à travailler. Fait son travail consciencieusement, avec résignation. Et dans le bureau de son père, il pense souvent à lui. Sa mère a fait ses valises. Elle lui a dit au revoir. Elle est partie. Sans rien, elle lui laisse tout. Elle lui a dit, ne m'envoie rien. Je n'ai besoin de rien. Il lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire seul? Elle lui dit, tu as ton travail. Chacun ses choses. Et elle est partie en voiture. Qui va l'amener en train. Elle n'a pas voulu que Gilbert l'accompagne. Gilbert est seul. Les jours passent. Gilbert a beaucoup de dossiers à s'occuper. Le bâtiment, la rénovation, la recherche ADN, mutants, chimères, agroalimentation, vieillissement, robotisation, ordinateur, médias, etc., etc. Heureusement qu'Harold est là pour l'aider. Ils s'entendent bien tous les deux. Pour se détendre le soir, il passe la soirée seul avec son ami Julien. Ils parlent tous deux d'un autre temps où ils étaient plus libres et heureux. Et les jours passent. Une nuit, une voiture s'est arrêtée devant le laboratoire jeune tout pontois. En sort un homme habillé de noir.
Il saute le mur, va jusqu'au bâtiment, et là, il s'arrête devant une fenêtre dont les volets n'ont pas été fermés, exprès pour lui. La fenêtre est au premier étage. Il y a à terre, comme par hasard, une échelle. Il la prend, monte à l'échelle et, pour entrer, brise le verre avec une masse en cuivre de 500 grammes. Il ouvre la fenêtre et saute à l'intérieur. C'est une pièce de recherche. Il éclaire avec une lampe de poche. Se dirige vers un coffre. Un coffre blanc. C'est un réfrigérateur. Il fait le code pour l'ouvrir. Il y a dedans le coffre en métal fermé, des bouteilles. Des petites bouteilles en métal avec des noms sur chaque bouteille. Il en prend deux. Ferme le coffre. Et sort de la pièce. En passant par la fenêtre. Retourne à la voiture.